I got glue and chole pour I to the pipe of it.
L'écho du parquet, l'émission qui met le feu au plancher.
À la vacante, j'ai dit te peux pas m'engarrer, pas m'engarrer.
Votre rendez-vous radiophonique des musiques et danses traditionnelles.
La petite sauce perd une belle plume de haut. Pas m'engarrer, pas m'engarrer.
Mais si l'amour prend la racine dans mon jardin, j'en planterai. Dans mon jardin, j'en planterai mes aux quatre coins. J'en ferai pas au nom de qui en auront besoin.
Elle est pas mal.
Beaucoup de gens font du diato aussi parce que c'est, je pense que c'est aussi mon cas, parce qu'ils ont juste découvert autour un monde qui leur plaît quoi, et des gens sympas, et une façon de faire la musique sympa. Et moi c'est comme ça que je suis tombée dedans en fait, voilà. Tout de suite faire danser, tout de suite, il y avait une espèce d'accessibilité immédiate.
Aujourd'hui, je vous propose une suite de vidéos pédagogiques pour les débutants complets en accordéon diatonique. Voilà, alors nous travaillerons sur des exercices bien sûr pratiques, mais nous aborderons aussi plusieurs notions théoriques nécessaires pour vous donner toutes les bases.
L'accordéon, c'est un instrument qui peut être joué tout seul. Mélodie, rythmique, harmonie, bon. À la base, les gens trouvent ça, le petit accordéon, le diatonique, plus sympa, moins cher, moins lourd, etc. Ça fait danser, c'est quand même un des éléments de base. Et puis après, eh bien, il y a aussi d'excellents musiciens qui font monter le niveau, qui jouent et qui sont quelque part ambassadeurs. Si on a autant de Castagnari ici, c'est grâce à Marc Perron, qui le premier a été voir la maison Castagnari en Italie, et puis qui faisait plus que des chromatiques. Il les a remis au diatonique. On voit ce que ça a donné. Et quand vous regardez le nombre de fabricants d'accordéons, c'est parce qu'il y a de plus en plus de joueurs. Donc il y a plein d'ateliers, des stages. C'est une dynamique complémentaire.
Diatonique.
Marc Perron, diatoniste précurseur.
À Ponce, pour la première fois, j'ai vu Zacharie Richard. Il était tout jeune à l'époque. Hein. Et qui jouait. C'était un vrai Cajun, quoi. Il jouait Cajun.
De Louisiane.
Puis, ouais, et puis. Et pas, il n'y avait pas trop d'accordéon parce que jouer de l'accordéon, c'était porter une double culpabilité, si j'ose dire. Les gens détestaient l'accordéon musette. Et ils n'aimaient pas trop l'accordéon diatonique, parce que c'est le premier instrument qui a délogé les instruments plus anciens qui étaient la vielle, la cornemuse.
Violon.
Le violon. Et donc, l'accordéon, c'était même diatonique, c'était.
C'est un peu méprisé.
Les puristes du folk, de la musique traditionnelle, et pas ça d'un très bon œil.
Voilà, là en section jazz, on m'a dit, ouais, c'est quoi ton truc? Enfin voilà, c'est la vérité. Le directeur à l'époque, on m'avait dit, ouais, mais c'est quoi ton truc là? C'est pas un instrument, il est où ton nez rouge? Ça, c'est c'est un accessoire pour les clowns. C'est, tu vois, je cite. Et donc, c'était quand même grave, mais voilà.
J'ai choisi le diato, il y avait deux raisons.
Lucas Thébault, diatoniste de Petit Piment et Bolsy Swing.
Déjà, moi quand j'étais petit, mon père jouait du diato, mais il jouait que quelques morceaux. C'était tous des morceaux un peu rapides, un peu festifs. Et il le sortait une fois de temps en temps, il faisait ces morceaux-là, c'était un peu des trucs un peu... Moi, gamin, c'était des morceaux, ouais, c'était un peu la fête quoi, quand il sortait ça. Donc j'ai toujours eu une image de l'instrument comme c'était lié à ce truc ultra joyeux, ultra positif. J'ai toujours bien aimé ça. Mais c'est quand je me suis mis vraiment au bal, à cette époque-là, moi, mon père... je me suis mis au bal des années où je suis allé vivre chez mon père. Et lui, à ce moment-là, il tournait en duo avec Benoît Gerbini. Donc j'avais quand même pas mal d'occasions d'en entendre, d'en voir passer à la maison... Et à chaque fois que j'étais sur un parquet de danse, dès qu'il y avait de l'accordéon, il y avait quand même toujours un truc de « Ah, cet instrument quand même, là, ça me taquine, quoi. J'ai vraiment envie, j'aimerais tellement être capable de faire ça. C'est super chouette. » Donc c'est ça qui m'y a amené. Et puis, ben, donc comme c'était des années où je vivais chez mon père, il y avait ce petit accordéon qui était le même que je voyais quand j'étais petit, qui était dans un placard. Et donc c'était aussi l'occasion de pouvoir un jour franchir le pas, d'aller le chercher dans le placard et de démarrer. Question numéro 2, est-ce que c'est pas le pire instrument du monde pour un musicien? Non. Et oui et non. Non, c'est pas le pire. Tous les instruments apportent des facilités et des difficultés. En vrai, l'accordéon diatonique, comme l'accordéon chromatique, enfin l'accordéon en général, faisant partie un des instruments qui ont un son globalement déjà quand même préfabriqué quand on appuie sur une touche et pouvant s'accompagner soi-même, ça fait quand même partie des instruments qui sont gratifiants parce que quand on apprend à jouer, déjà en quelques semaines on arrive à jouer quelques airs avec un accompagnement en même temps et tout, c'est hyper positif si on compare avec des instruments dont les difficultés sont dès le début, je pense notamment aux cordes frottées comme le violon où là il va falloir accepter que pendant plusieurs années ça va être ingrat, on va avoir du mal à faire un son juste et tout. Là, l'accordéon, dès le début, on est content. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés qui sont propres à l'instrument, notamment effectivement le côté bisonore. Mais qui dit instrument dit répertoire lié à cet instrument. Et par exemple, on pourrait se dire spontanément que l'accordéon chromatique est plus facile parce qu'il n'y a pas d'histoire de changement de sens. Mais il a tellement plus de possibilités, l'accordéon chromatique, que le répertoire d'accordéon chromatique est extrêmement plus complexe, virtuose et technique. Et à côté, nous, quand on commence vraiment avec des morceaux très 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 simples, quoi. Là où c'est un instrument qui va devenir par contre vraiment difficile, c'est si on souhaite le sortir des sentiers dans lesquels il a évolué. Et voilà, toute la musique chromatique, bien sûr, toute la musique classique, toute la musique contemporaine. Le jazz, c'est un instrument extrêmement compliqué si on souhaite apprendre à faire des gammes, improviser, etc. Toute cette approche théorique, c'est pas impossible, mais c'est plus complexe. Ça facilite pas les choses, quoi.
Moi c'est Teddy, voilà, et l'entreprise c'est l'atelier Lofé. Voilà. Alors un accordéon diatonique, c'est très simple, c'est une caisse de bois. Et à l'intérieur de cette caisse, vous avez ce qu'on appelle un sommier, une partie en bois qui s'appelle le sommier, là où sont fixées les hanches. Donc les hanches, c'est des petites lamelles en métal, en acier, Et ces anches, donc, sont actionnées par un clavier, des touches, voilà. Et le tout, parce qu'il faut de l'air quand même pour mettre dans un accordéon.
Pour faire vibrer les anches.
Voilà, donc avec le soufflet, voilà, on actionne le soufflet et quand on appuie sur un bouton, ça vient ce qu'on appelle ouvrir une soupape, voilà. Et cette soupape va laisser passer l'air à travers l'anche sélectionnée, le bouton sélectionné. Voilà, tout simplement. Alors, l'accordéon est un instrument qui a été inventé par Cyril de Mien, ou de Mont, je ne sais plus exactement son nom, c'est un Autrichien, en 1829, voilà, donc en Autriche, c'était un facteur de piano et d'orgue, voilà. Et donc, au départ, c'était un tout petit instrument, où il y avait 5 notes, et quand on appuyait sur une note, voilà, ça faisait un accord complet, ça ne jouait pas une anche, mais 3 anches en même temps, ça faisait un accord. Et au fil du temps, eh bien, l'accordéon diatonique s'est agrandi et s'est adapté à des répertoires, ou sinon des répertoires se sont appropriés l'instrument. Et voilà.
C'est quoi la différence avec un accordéon chromatique? Alors pourquoi il y a deux types d'accordéons?
Alors le chromatique aussi a la particularité, c'est que les notes sont rangées comme dans un piano. Donc vous avez do dièse, ré dièse, etc. Voilà, exactement les touches blanches et les touches noires d'un piano. Un diatonique sont déjà des instruments plus petits, plus axés du côté de la musique traditionnelle, dont l'apprentissage est moins scolaire, se fait beaucoup à l'oreille en regardant le voisin. Et en fait, le diatonique a deux particularités, c'est que les notes sont rangées par ton, voilà, non pas par demi-ton comme sur un piano, mais par ton. Et quand vous appuyez sur une note, quand vous tirez le soufflet, vous avez une note, et sur le même bouton, quand vous poussez le soufflet, vous avez une autre note, ce qu'on appelle bisonore. Alors le diatonique a l'extrême avantage par rapport au chromatique d'être beaucoup plus intuitif, beaucoup moins scolaire. Le diatonique ne se travaille quasiment que d'oreille en fait. Voilà, il y a des tablatures qui existent, il y a des partitions, mais 90% des accordéonistes amateurs diatoniques ne lisent pas la musique. Voilà, ils travaillent d'oreille ou alors avec les tablatures, donc les chiffres qui correspondent aux boutons de l'instrument. Moi, ça fait 8 ans que je travaille à l'atelier, voilà. Et au départ, je travaillais en facture d'orgue, en apprentissage en facture d'orgue, patron d'ici, à Saint-Servat-sur-Gartempe, à côté de Poitiers. Et en fait, là où je travaillais, la boîte allait fermer pour raison économique. Et donc, c'est un ami facteur d'orgue qui m'a dit, bah, va voir du côté de l'accordéon. C'est un petit orgue, comme un petit orgue, voilà. Il y a un soufflet, il y a des soupapes, il y a des sommiers, etc. Donc voilà, j'y suis allé. Et ça fait 8 ans maintenant.
Et Lofé, la boîte où tu travailles, je crois que c'est une boîte qui a un rôle un peu important dans l'histoire de l'accordéon diatonique en France, non ?
Oui, enfin, disons que voilà, c'est Bernard Lofé qui est le patron historique de la boîte, qui est décédé en 2018. Et voilà, Bernard a été quelqu'un d'assez influent, entre guillemets, parce qu'il jouait partout, il allait partout dans les fest-noz, jouer, sonoriser, etc. Et aujourd'hui, voilà, il y a des vrais fabricants, voilà, il y a une petite dizaine d'entreprises en France, quoi. Voilà.
On a l'impression quand on organise un stage d'accordéon, il faut poser plein de questions sur les types de modèles avec lesquels les gens viennent, tout ça.
Alors oui, effectivement, maintenant, l'accordéon diatonique de base n'a que 2 rangs. Voilà, 2 rangées de boutons et 8 basses à la main gauche. Donc c'est vraiment axé à l'époque, vraiment musique traditionnelle, voilà, qu'elle soit celtique ou du centre, enfin voilà, toutes les musiques trad. Aujourd'hui maintenant, avec la musique qui évolue, puisque les instruments, n'importe quel qu'ils soient, ont toujours évolué en fonction de la musique, et non l'inverse. Et aujourd'hui on fait beaucoup plus, les jeunes accordéonistes professionnels sont beaucoup plus maintenant attirés vers tout ce qui est musique de l'Est, vers aussi le jazz, l'improvisation, la composition, plaquage d'accords maintenant aussi directement sur la main droite, ce qui fait que un Doran, maintenant, dans cette optique-là, ne suffit plus. Voilà. Pour ça qu'aujourd'hui, on a des Doran plus 2, des Doran plus 5, des 3 rangs, etc. Voilà. Donc, pour une question de répertoire, parce que le répertoire a évolué, les centres d'intérêt des musiciens ont évolué aussi. Bah, en fait, maintenant, avec les accordéons 3 rangs, par exemple, qui sont les instruments les plus complets, l'instrument est quasiment chromatique. Voilà, il y a toutes les notes, on peut vraiment faire de tout. Après, dans le diatonique, il y a deux façons de jouer. Peu importe si vous avez 2 rangs ou 3 rangs, il y a effectivement la façon tirer-pousser ou sinon ce qu'on appelle en croisée. Donc c'est-à-dire qu'on va jouer sur chaque rangée. Voilà, le tout en poussant, le tout en tirant. Quand on joue en tirer-pousser, c'est aussi un style puisque ça va amener la nervosité aussi à l'instrument, un peu la pêche qu'on lui connaît. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant, puis comme les accordéonistes n'arrivent jamais à se mettre d'accord, chacun a son plan de clavier, chacun a son schéma de clavier, donc ce qui fait que si vous prenez un 3 rangs, le voisin n'aura jamais le même bouton placé au même endroit parce que voilà, il y a des compositeurs comme Jean-Michel Corgeron, Bruno Letron, etc. Qui font de la musique trad, mais qui ont inventé leur propre schéma de clavier pour faire leur musique.
Bah, je ne l'ai pas vraiment choisi, mais en tout cas, je trouve que c'est un instrument où on ressent beaucoup de sensations et on se sent proche de lui. Et c'est pas ce qu'on retrouve dans d'autres instruments, comme la flûte, par exemple.
Le fait que tu l'aies près du corps et qu'il y ait des tirés poussés tout le temps.
Oui, c'est ça. Ça donne des sensations. On fait corps avec l'instrument, quoi.
Et quand tu dis au début, tu ne l'as pas choisi, donc comment ça se fait que tu en joues si tu ne l'as pas choisi?
C'est un hasard. En fait, mes parents sont allés chez un luthier qui m'a prêté 2 secondes un diato. Et j'ai essayé. Après, ils ont décidé de m'en... Ils trouvaient que je me débrouillais plutôt bien. Ils ont décidé de m'en prêter un pendant quelques temps. Et je me suis mis à en jouer... à progresser, et là j'ai le mien.
Et tu joues quel style de musique avec ton accordéon diatonique?
Ben, de la musique traditionnelle, et je compose aussi.
D'accord. Et la musique traditionnelle, c'est de la musique que tu écoutes par ailleurs, et c'est pour ça que tu en joues sur le diato, ou est-ce que c'est parce que le diato, c'est un instrument qui fait qu'on joue de la musique traditionnelle, d'après toi?
Ben, c'est parce que j'en écoute, mais le diato n'est pas forcément fait pour la musique traditionnelle. On ne peut pas limiter à un style. Enfin...
Thank you.
Jean-Michel Corgeron, bonjour. J'ai commencé par les instruments à cordes, guitare, banjo, dulcimer. Et par hasard, faisant du dulcimer, je pensais que c'était un peu la même gestuelle pour la vie à la roue. Puis bon, non. Non, et un copain a laissé, avant de partir en vacances, un accordéon à la maison. Je lui ai dit, montre-moi comment ça fonctionne. C'était en 82. Et il y avait un bouquin avec l'accordéon. C'était le recueil de Denis Levrault. J'ouvre le bouquin, je dis, oula, c'est tordu ça. Puis étant dans mon métier responsable organisation et méthode, j'étais habitué à remettre en cause les process. Donc le soir même, j'ai inventé le système rangé qui est devenu le système Corgeron. Mais moi, je ne l'ai pas nommé Corgeron, c'est les gens qui l'ont nommé eux-mêmes.
Qu'on comprenne bien, tu ne savais pas jouer du diato quand tu as inventé cette méthode.
J'ai pris le diato entre les mains. Moi, je venais du monde de la guitare. La tablature, 6 cordes, 6 lignes. Le banjo, 4 cordes et demi, ou qu'on appelle 5 cordes, 5 cordes, 6 lignes. Le dulcimer, 3 cordes, 3 lignes. Il y avait toutes les méthodes où tous les bouquins étaient, on pose, on indique la corde, le doigt, quelle case, et après, ce qu'on en fait. Est-ce qu'on mettait le doigt, est-ce qu'on met à la main droite, on joue avec les doigts, avec le médiator, couvert le bas, couvert le haut. Le principe d'une tablature, c'est un complément à la partition. La partition, elle donne la hauteur de la note et sa durée. La tablature, elle dit où est-ce que ça joue et comment. Voilà, c'est tout. C'est deux systèmes qui sont complémentaires. On peut les utiliser ou pas. On peut faire de l'oralité, parce qu'en musique traditionnelle, c'est d'abord de l'oralité. Mais tous les outils, que ce soit partition, tablature, quel que soit le système, grille d'accord, etc., ce ne sont que des outils de communication pour faire de la musique. Le principal étant de faire de la musique. Sur ça. Donc, quand j'ai pris l'accordéon, je ne savais pas jouer l'accordéon. Mais par contre, j'ai vu tout de suite que c'était un deux rangé. Puis je voyais un truc, il est poussé au-dessus d'une ligne, tiré en dessous avec des primes pour donner. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Donc, j'ai représenté l'instrument avec les deux rangés. Et comme j'aime bien les jeux de mots et qu'il y a deux effets, tout ce qui est souligné d'un tiré est tiré. Donc, par conséquent, le reste est poussé. Voilà, je suis parti de là. Et donc, j'ai commencé en 82, j'ai pris un an de cours, et en 84, c'est-à-dire 2 ans après, c'était l'éclosion des revues folk en 84, au même titre que les radios, il y a eu des radios libres après, etc. Et donc, j'ai proposé aux revues une transcription pour accordéon, parce que j'étais abonné à l'Escargot Folk. Dans l'Escargot Folk, il y avait plein de tablatures, de guitares, de dulcimer. Donc j'ai publié dans différentes revues, alors je me suis fait incendier, hein. Mais c'est qui ce mec qu'on ne connaît pas, qui arrive avec un autre système, il nous emmerde, quoi. C'est un peu ça. Quoi. Ça a été violent, hein, par des écrits interposés dans une journal Parole d'Anche, mais c'est pas grave, moi je m'en fous. Moi. C'est pas mon gagne-pain, ça me fait plaisir, et j'ai l'habitude de noter les choses. Considérant que la notation, c'est un souvenir, c'est une archive. Quand je joue 4 heures de balle, j'ai pas un support écrit devant moi. J'ai peut-être des grilles d'accords ou des choses comme ça, ou le début d'un morceau, mais voilà. Donc c'est vraiment, c'est pas une béquille, c'est un support. Mais quitte à faire des supports, autant utiliser, si c'est de la partition, on respecte les normes d'écriture des partitions. Si on écrit des tablatures, on utilise un système qui est cohérent avec l'instrument. Donc moi, c'est comme la guitare, c'est visuel. C'est un système visuel, ce qu'on voit, on l'écrit, et ce qu'on joue, on peut l'écrire. Donc après, tout ça, ça m'a amené, le fait d'avoir imaginé ce système d'écriture, ça m'a amené à contacter tous les joueurs de diato en France, même à l'étranger, j'en connais un paquet, sur 40 ans, ça fait... Et puis, voyant que Trad Magazine battait un peu de l'aile, j'ai pris mon autonomie pour sortir les éditions Franche Connexion. Et donc, depuis 2017, il y a eu, avec ceux qui sortent, ça fera 24 ouvrages qui sont disponibles. Et c'est pas fini.
comment on passe de la tablature à une méthode d'accordéon? Est-ce que toi, tu as développé comment on apprend aux gens à jouer du diatonique?
Tout à fait. Alors, lors d'un stage que je faisais en tant que stagiaire dans les Monts du Lyonnais, et puis au milieu du stage, je vois arriver un énergumène que je ne connaissais pas. Il vient, il prend la partition, il revient un quart d'heure plus tard, il joue le fandango. Je dis, oh là, c'est quoi ça? Et c'était François M. Donc on a vraiment sympathisé, on a parlé pédagogie. Et il n'y avait pas de méthode à ce moment-là, il y avait très peu de choses. Donc on a sorti en 95 une méthode, tous les deux.
C'est parce que mes oncles, ils en jouaient dans le Morvan. Ils m'avaient dit, je t'en donnerai un, je l'attends toujours.
T'as bien fait de pas attendre toujours.
Et puis, alors j'ai oublié pendant plusieurs... quand j'avais 18 ans, 20 ans, je jouais de la guitare. Et puis après, on a retrouvé un diato dans le grenier de ma grand-mère. Du coup, ça a été le... Hop, je suis reparti avec le diato, ouais. Et voilà. C'était une belle histoire.
Et vous, pourquoi le diato?
Ben parce que moi je faisais, j'étais séduite par le folk parce qu'il y avait, on avait organisé un bal folk dans le village où j'habitais et j'ai trouvé ça fantastique ces bals, c'était tellement convivial. Alors après on a créé dans notre petit village une activité danse folk et puis bon je faisais de la musique classique et on avait besoin d'instrumentistes. Alors on m'a dit pourquoi tu ferais pas du diato, c'est facile. Voilà, bon, c'est comme ça que j'ai commencé le diato, et puis bon, après j'ai trouvé ça sympa. Et...
Ah ben moi je suis tombée dans le folk aussi un peu par hasard. Un jour, mon fils allait au bal folk avec les parents d'un copain. Ils m'ont dit, tu veux venir? Alors j'ai dit oui. Ben, après ça, j'ai eu le coup de foudre, et puis je me suis mis au diato. C'est comme ça qu'on a commencé tous ensemble. J'en ai acheté un, après je me suis dit, je vais jouer dans un groupe. Au départ, on était à un atelier... Un atelier d'élèves, en fait, et puis après, on a fait un groupe. Et voilà, donc ça fait à peu près 30 ans qu'on joue ensemble.
Ce à quoi j'associe le chroma, c'est-à-dire le musette et tout ça, c'est pas du tout un truc qui me parle. Alors que la musique néo-folk trad davantage. Après, j'aime bien tout le truc du poussé tiré, là. Ça fait des tendinites et tout ça, mais c'est. Enfin, ça fait partie de ce que j'aime bien dans l'instrument. Et en fait, une des. Complexité du diato, c'est quand tu tires et quand tu pousses, c'est pas la même note. Et du coup, alors t'as soit deux rangées, soit trois rangées, et tes gammes sont organisées soit en croisée sur deux rangées, soit en poussé-tiré. Et donc, ça fait une dynamique de jeu particulière, quoi. T'es tout le temps en train de tirer, pousser, et ça s'entend dans le son. Thank you.
Jean-Baptiste. Je fais du diato depuis 8 ans, je pense. Alors, j'ai fait beaucoup de batterie quand j'étais adolescent. Et puis la batterie, ça a plein de défauts. C'est encombrant, c'est difficile à transporter. On peut pas faire d'harmonie, on peut pas faire de mélodie. Enfin, il y a plein de problèmes. Et j'ai cherché l'instrument qui fait un peu l'exact opposé de la batterie, donc qui est versatile, qu'on peut transporter, on peut chanter avec, on peut être tout seul, on peut être avec d'autres, tout ça. L'accordéon est apparu hyper vite comme la réponse. J'ai longuement hésité entre le diato et le chroma. Et un soir, je vais à une soirée un peu par hasard chez des copains de ma sœur, bon, bref. Et on me met dans les mains un diato et je fais « Ah mais c'est trop bien, ah mais en fait, c'est ça que je veux faire, j'adore ce truc !» Et donc après j'en ai loué un, je me suis trouvé une méthode et j'ai beaucoup appris tout seul pour commencer.
D'accord, maintenant t'es au stage. Et est-ce que t'écoutais de la musique trad avant de jouer du diato?
Pas du tout, c'était pas du tout mon univers.
D'accord, et est-ce que tu t'es mis à la musique trad après avoir commencé à jouer du diato?
Ouais, alors en fait, j'ai appris pendant 3 ans tout seul dans ma chambre à partir d'une méthode papier que j'ai trouvée dans un magasin. Et en fait, c'est en venant faire un stage d'accordéon à Chalap dans les Cévennes que j'ai découvert l'univers du trad. Avant, je ne connaissais pas, donc j'ai vraiment passé 3 ans isolé tout seul. Et puis, en fait, j'ai découvert les danses, j'ai découvert les gens, tout l'univers qu'il y avait derrière et toute la joie que ça apportait, les rencontres. Et depuis, je n'ai pas arrêté.
Je m'appelle François Heim, mes parents se sont installés dans les Cévennes en 1973 et moi j'avais 7 ans à ce moment-là. J'avais commencé à faire du piano à Strasbourg parce qu'avant on habitait Strasbourg, donc j'avais fait du piano à Strasbourg et puis quand on est arrivé ici en 73, il n'y avait plus de profs, il n'y avait pas du tout de profs de musique, donc j'ai arrêté la musique. Et puis il y avait des animaux, mes parents ont vécu un peu en communauté, c'était un peu l'époque après les années 70. Donc il y avait des bêtes, il y avait de l'artisanat, il y avait d'autres choses. Et en 1980, il y a un voisin qui s'est installé, qui jouait du diato, un petit peu en autodidacte comme ça se faisait à l'époque, qui jouait quelques morceaux de diato. Et moi, j'ai mis le grappin dessus. Donc ça a été l'occasion pour moi de me remettre à la musique. Donc je me suis acheté mon premier accordéon et puis c'est devenu une passion. Et j'ai pu arrêter donc, du coup à jouer tout seul, à travailler l'instrument. Puis après, je suis allé au lycée à Nîmes. Donc, en seconde, j'ai rencontré des clubs folk. À l'époque, il y avait des clubs folk dans les lycées. J'ai de plus en plus joué. Et après mon bac, j'ai décidé de faire une école de musique. J'ai décidé d'en faire mon métier. J'ai appris le chromatique à ce moment-là. Parce que je pensais que je ne pourrais pas gagner ma vie avec un diato dans les années 80-85. Mon instrument, c'était quand même plus le diato. Et j'ai fini par choisir le diato. Puis je suis devenu prof dans cette école. Je suis devenu prof de diato, en fait, dans l'école où j'étais étudiant. Donc ça, c'était au Thor, près d'Avignon.
Pourquoi le diato plutôt que le chroma?
Et le diato, parce que je pense que c'est une question de milieu. Je pense que j'étais mieux dans le milieu du diato que dans le milieu du chroma. Je pense que maintenant, j'ai l'impression que c'est en train de se mélanger. Mais à l'époque, c'était le diato, c'était, je dirais, le milieu du diato. C'était un petit peu les bobos de gauche, on peut peut-être dire ça comme ça, ou le milieu enseignant, le milieu un peu... Et le chromatique, c'était plutôt le milieu très populaire, les gens qui aiment le musette. Donc moi, je n'étais pas forcément branché sur le musette. Ou alors les gens qui font la musique contemporaine, le diato basse, le chromatique, le chroma basse chromatique, accordéon de concert. Et c'était pas mon milieu culturel. Et je pense que c'est pour ça que j'ai choisi le diato. Parce qu'avec du recul, maintenant je me dis, avec la musique que je fais, parce que je me suis quand même beaucoup intéressé aux musiques de l'Est, j'ai joué longtemps avec un Russe qui s'appelle Alexis Biryukov, j'ai plus fait de concerts que de balles, et j'ai une manière de jouer qui se rapproche un peu du chromatique, puisque je joue quand même beaucoup en croisant. Avec du recul, je me dis peut-être que le chromatique aurait été plus adapté à la musique que je joue. Hein. C'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant, parce que même dans les stagiaires qui viennent, je pense qu'il y a plein de gens, ils font de l'accordéon. Et ils ont choisi le diato parce qu'ils ont été accueillis dans ce milieu-là. mais il ferait peut-être aussi bien du chroma à certains. Mais je crois que c'est en train de bouger là. C'est ça aussi, je pense, qui était super pour nous, c'est que pédagogiquement, il n'existait pas grand-chose. Dans les années 80, il y avait peut-être une ou deux méthodes. Alors, j'ai plus les noms en tête, mais il y avait deux, trois trucs qui existaient, mais pas grand-chose. Alors nous, on était quelque part, on était hyper contents de créer des méthodes. On avait l'impression d'être les rois du monde, quoi. Donc, c'était hyper grisant, en fait, de travailler là-dessus. Bon, notamment, il y avait aussi Norbert Pignol, Stéphane Miret, qui ont énormément fait évoluer le diato. Et c'était passionnant, quoi. Ceux qui nous ont le plus marqué, c'est Marc Pierron, on va dire. Hein, Marc Pierron, qui est quand même une grosse... Je pense que c'est quand même grâce à lui que le diato s'est énormément développé en France. On est tous reconnaissants. Je pense que tout le monde est reconnaissant de son travail. Moi, j'habite donc maintenant à Chalade, dans les Cévennes, donc dans la maison qu'ont acheté mes parents en 73. J'en ai fait en lieu de stage, ouais, qui est devenu maintenant assez important. Et donc, il y a énormément de stages l'été. C'est la 29e année qu'il y a des stages, hein, donc ça fait quand même pas mal. Et il y a aussi des stages toute l'année et qui sont assez variés. En fait, moi, ma philosophie, c'est quand même de faire venir des musiciens qui sont très, 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 très différents, avec des approches très, très différentes et de proposer un éventail très, très large au niveau pédagogique. Donc c'est vrai qu'il y a une grosse base d'accordéon diatonique, parce que c'est mon réseau. Moi, j'ai un gros réseau d'accordéonistes, mais j'essaie d'ouvrir de plus en plus à d'autres instruments. Au départ, j'ai toujours autant aimé enseigner que de jouer. Et puis maintenant, peut-être que l'enseignement, en vieillissant, prend le pas. Et puis je trouve ça super, je trouve que ça fait partie aussi de l'ordre des choses, quoi. Alors moi, pour moi, la transmission, elle est très, très vaste. Moi, j'essaie de m'adapter le plus possible aux gens. Je trouve que... Le plus important, c'est de les accompagner dans leur démarche, et quelle que soit la manière de transmettre. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas une bonne transmission ou une mauvaise transmission. C'est vrai qu'il y a 30 ans, il y avait des débats entre ceux qui défendaient la tradition orale et d'autres qui défendaient la tradition écrite. Et je trouve que les deux sont super bien. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus visuels, d'autres qui sont plus auditifs. Et je pense que c'est à l'enseignant de s'adapter. Il y a autant de pédagogie que de personnes qui apprennent un instrument. Bon, la tablature, c'est un petit peu différent. Je pense que je pense que la tablature a permis à beaucoup de gens de se mettre à l'instrument. Et ça, c'est super, quoi. Maintenant, je suis un peu plus critique au niveau de la tablature, dans le sens où les instruments ne sont pas tous les mêmes, surtout en diato. Il y a 5-6 modèles de diato différents. Donc, c'est un peu compliqué, la tablature, parce que on change d'instrument, c'est plus la même tablature. Mais bon, mais pourquoi pas? Moi, quand quelqu'un vient en stage avec moi et qui me dit, moi, il me faut la tablature, sinon j'arrive pas à suivre, eh ben, je vais lui écrire la tablature. Et après, petit à petit, je vais essayer de l'inciter à s'en séparer. S'il peut pas, c'est pas grave, quoi. Après, je n'ai pas du tout une démarche élitiste non plus. Hein, je pense que c'est vraiment la musique pour tous, et puis accompagner chacun dans son projet. Et quand il y a des très bons niveaux, on est aussi content de pouvoir les accompagner. Mais c'est avant tout, on est conscient qu'on a avant tout un public d'amateurs. C'est ce qu'on dit, c'est que les joueurs de diato, ça pousse comme la mauvaise herbe, il n'y en a pas. Il y en a plein. Non, mais c'est super, surtout que l'évolution, c'est formidable. Déjà au niveau des instruments, il y a 30 ans, quand on avait un accordéon de luthier dans nos stagiaires, on était contents d'en voir un. Puis maintenant, il n'y avait que des honnaires. Moi, j'ai rien contre les honnaires, hein, C'est un peu comme la deux chevaux. Maintenant, quand on voit un honnaire, quelqu'un qui a un honnaire de 1915 de Rongier, on n'a quasiment plus. Donc la lutherie a énormément évolué. Il y a de plus en plus de luthiers. Ça, je trouve ça super aussi. Et puis le niveau, il a énormément évolué, parce que les joueurs de diato, ils commencent de plus en plus tôt. Ils ont des profs, ils ont des cours, il y a des écoles de musique. Donc forcément, le niveau, il a énormément évolué. Je pense qu'au début, c'était des autodidactes, des gens comme Marc Pierron, etc. La première génération, c'était des autodidactes. Je dirais la deuxième génération, moi, je me situe un peu dans la deuxième génération, où on s'y est mis un petit peu tard, mais on a commencé à se former. Et la troisième génération, ils ont commencé beaucoup plus tôt, avec des instruments aussi beaucoup plus complets. Alors, moi, à mon avis, pourquoi le diato s'est imposé, c'est parce que je pense que dans les années 80, les écoles de musique se sont ouvertes aux amateurs. Et je pense que les musiques traditionnelles, elles ont su rentrer dans le cadre et ont pris la place, quoi. Et les autres n'ont pas réagi ou ont réagi plus tard, quoi. Avec des enseignements un peu différents, justement, de l'apprentissage d'oreille, etc. Ce qui a donné envie aux adultes, aux amateurs, de pratiquer les musiques traditionnelles. Je pense que notamment si au niveau du chromatique, les profs de chroma à l'époque, ils avaient eu la même démarche, peut-être qu'il y a des gens auraient fait du chromatique. Mais ils avaient une méthode d'apprentissage encore très, je dirais, très classique. Et je pense que c'est pour ça, enfin, que la brèche de la musique traditionnelle s'est ouverte à ce moment-là. Peut-être pas que, mais entre autres, quoi.
Alors, je m'appelle Stéphane Miret, j'ai commencé l'accordéon en 79, j'avais 9 ans, et je suis venu à cet instrument. Mes parents faisaient de la danse traditionnelle, et mon père m'a dit « t'as pas envie de jouer d'un instrument ?» Je lui ai dit « ben si ». Il m'a dit « de quel instrument t'as envie de jouer ?» Je lui ai dit « de l'accordéon », et je ne sais pas pourquoi je lui ai dit ça. C'était vraiment comme un cri du cœur, voilà. J'ai commencé par le chromatique à 8 ans, avec un enseignement très traditionnel, le chromatique, le musette, etc. Donc solfège. Et un jour, il m'a dit, je t'ai inscrit à un stage de diato dans le Morvan. Dès le premier jour, j'ai senti que c'était vraiment mon instrument, que c'était... J'avais un rapport organique à l'instrument qui était très différent par rapport au chromatique. Comme j'étais gamin, le chromatique, c'est très gros, c'est très lourd, là, c'était un petit instrument. Et surtout, l'enseignement était vraiment... avec de l'oralité, avec des choses beaucoup plus adaptées à mon âge et à mes envies. Donc voilà. Et depuis, j'ai pas arrêté. J'ai fait que ça dans ma vie.
Eh bien, bonjour. Moi, c'est Norbert Pignol. J'ai commencé un peu après Steph, mais un peu dans le même contexte, indirectement, puisque mon père faisait le même stage que Stéphane. Et donc, mon père a ramené l'instrument à la maison. Puis après, je lui ai un peu, je l'avoue, volé l'instrument et la méthode qu'il avait ramenée, qui était une méthode de Pierre Fort. Moi, j'étais complètement autodidacte. J'ai jamais fait de stage. J'ai jamais vu de prof. Donc, j'ai appris tout seul. Et c'est un peu comme Steph. Je ne sais pas qui choisit l'autre. Je ne sais pas si c'est nous qui choisissons notre instrument ou l'instrument qui nous choisit. Mais il y a eu une relation directe avec cette petite boîte.
Ouais, ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est qu'on est des amis d'enfance. On se connaissait avant de commencer le diato, quand on était vraiment très très jeunes. Et donc lui habitait à Grenoble, moi j'habitais dans le Morvan. Il a commencé à peu près en même temps que moi. On se voyait tous les ans dans un stage que nous faisaient nos parents. Et nous, on dansait pas. C'était un stage de danse et on passait nos journées à jouer du diatto, tous les deux. Et après, Norbert est un tout petit peu plus vieux que moi, donc on s'est un peu perdu de vue. Et on s'est retrouvés, moi j'avais 18 ans, lui un peu plus. Et moi j'ai déménagé pour aller à Grenoble, pour retrouver Norbert, pour faire de la musique. Et on a joué pendant 10 heures par jour, pendant 5 ans. Donc voilà, c'est une histoire aussi de nous deux, quoi. Pour moi, le diatto est indissociable de notre histoire humaine à tous les deux. Et on a avancé tous les deux de la même façon, avec les mêmes envies, sur la technique de l'instrument, sur l'enseignement qui a été tout de suite pour nous hyper important, et sur cette imagination d'un nouveau clavier, parce qu'à l'époque, on en parlera sûrement, mais à l'époque, nous on a commencé sur un 2 rangées 8 basses, on a joué très très longtemps sur un 2 rangées 8 basses, et à l'époque il n'y avait pas beaucoup de 3 rangées, et quand on a senti tous les deux, je pense qu'on avait fait vraiment le tour de ce 2 rangées 8 basses, qu'on a travaillé dans tous les sens. Et quand on a voulu passer aux 3 rangées, ben il n'y avait pas de standard de clavier. Chacun faisait un peu ce qu'il voulait, donc on a quand même passé pas mal de temps à penser ce clavier sur le papier avant de l'avoir dans les mains.
C'est très intéressant parce que c'est une mouvance qu'il y a eu qui est totalement collective. C'est-à-dire que nous, on était dans un élan. C'est beaucoup lié à un contexte et à une époque. Il y a un moment donné dans l'histoire des musiques trad sur, on va dire, une fenêtre de 100 ans, d'une centaine d'années. Et on a eu cette chance avec Stéphane et tous les projets qu'on a pu monter derrière et ce qu'on a pu créer, de tomber quelque part au bon endroit et au bon moment. C'est-à-dire qu'il y avait besoin de cette impulsion et il y avait énormément de choses à faire. Quand on a commencé l'instrument avec Stéphane, c'était ouvert. C'est-à-dire que si on était parti sur une pratique instrumentale, plutôt sur un style jazz, piano ou contrebasse ou violon, ou qui sont des instruments qui ont déjà une histoire très importante dans toute la période classique, contemporaine, pré-contemporaine, etc. C'est vraiment des instruments qui bénéficient d'une histoire très importante. L'accordéon, c'est un instrument jeune, l'accordéon diatonique. Et c'est pratiquement, pour ainsi dire, un instrument d'après-guerre, hein, en réalité. Et du coup, tout était ouvert. Et on a pu avancer avec Stéphane au fur et à mesure. Parce qu'on ne se rendait pas compte que dans notre parcours, on faisait de la recherche, en fait, sur cet instrument. Tellement il y avait de terrain à défricher. Et du coup, ben, bon an, mal an, comme ça, en avançant dans notre passion, on a mis en place une évolution et un parcours pédagogique à suivre. Il y avait plein de choses à explorer et ça s'est fait parce que quelque part, on était au bon moment, au bon endroit aussi. On a eu cette chance, quoi.
Moi, je suis né dans le Morvan, mais très vite, comme je suis arrivé à Grenoble, on n'avait pas de territoire, de patrimoine local à défendre et on voulait faire notre musique. Donc, on avait fait le tour de ce 2 rangées 8 basses. On avait l'impression de faire le tour de ce 2 rangées 8 basses. Et on voulait un instrument qui nous permette d'aller dans d'autres esthétiques. Non pas qu'on n'aimait pas celle qu'on avait jouée, mais qu'on voulait... On voulait faire de l'improvisation. Je ne sais pas si on peut dire du jazz, mais en tout cas, on voulait faire de l'improvisation. On voulait faire des musiques plutôt d'Europe centrale, etc., qu'on ne pouvait pas faire sur notre 2 rangées 8 basses. Donc, il existait à l'époque des 2 rangées plus 4 boutons, plus 5 boutons. Il y avait déjà des choses qui existaient. Et nous, on a voulu aller plutôt en direction dans un 3 rangées. Et tout de suite, on s'est dit, il ne faut pas qu'on fasse un 2 rangées, le 2 rangées qu'on avait, plus une 3e rangée. Si on veut un instrument complet qui nous permette de jouer tous les accords, toutes les gammes, il ne faut pas que ça soit un 2 rangées plus quelque chose, il faut que ça soit un autre instrument. Donc il fallait modifier la 2e rangée du diatto. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est pas vrai. C'est pas un instrument où on retrouve notre 2 rangées plus des notes. C'est un instrument qu'on a modifié pour faire la musique qu'on avait envie de faire. Donc, et là, on est arrivé à un instrument 3 rangées, chromatique en tirant, toutes les basses à gauche dans les deux sens, des notes qu'on n'a pas en poussant parce que c'est inhérent à l'instrument. Et voilà, c'est un instrument qui nous a permis d'aller dans des directions différentes. On n'a pas forcément suivi la même trajectoire après, tous les deux, avec Norbert. Moi, je suis plutôt resté dans le milieu trad, dans le ciné-concert, dans le BD-concert. Nono, il a fait un peu plus de jazz, un peu plus de musique pour la danse contemporaine, mais qui nous permettait de faire notre musique, complètement. Sans envie que tout le monde joue de notre clavier. C'était, voilà. C'est ça qui est chouette dans cet instrument, c'est qu'il y a plein de claviers différents. Donc, quand on fait de la pédagogie, c'est un peu chiant, parce qu'on se retrouve avec des stagiaires qui ont plein de claviers différents. Donc, il faut adapter les doigtés, etc. Mais c'est toujours un instrument, pardon, qui est en pleine évolution, avec des recherches, avec là depuis une dizaine d'années, il y a les claviers main gauche, système Darwin, qui se rapproche un peu du chromatique. Enfin voilà, c'est encore un instrument qui est en pleine évolution. Et moi, je trouve que par rapport à ce que disait Norbert, c'est vraiment une chance d'avoir des gens qui réfléchissent encore à l'organologie d'un instrument. Voilà.
Pourquoi vous dites pas, on va prendre un chroma, qui est un instrument qui existe, qui ressemble beaucoup et qui a déjà toutes les notes.
C'est une super question, on nous l'a posé des centaines de fois.
Il y a toujours l'aspect bisonore dans notre clavier, c'est-à-dire que on n'a pas le même clavier en tirant et en poussant. On a toujours la possibilité de jouer en poussé-tiré. Ça existe encore et on le fait encore. Et c'est ça qu'on veut garder, c'est ce qui fait le charme de l'instrument. C'est-à-dire que, par exemple, dans le domaine de l'improvisation, il y a des phrases qu'on peut faire en tirant, et puis des phrases qu'on peut faire en poussant, et on ne va pas phraser du tout de la même manière. Forcément, le clavier n'est pas fait pareil en poussant et en tirant. Et donc, cet aspect bisonore est très créatif. Le côté bisonore de l'accordéon diatonique, ça permet, au niveau des compositions, d'être vraiment inspiré. C'est une machine à composer, l'accordéon diatonique. On fait un motif de doigt en tirant, et on fait le même en poussant, et ça y est, on a une phrase sur quatre mesures. Et puis il y a aussi ce côté, on ne peut pas sortir d'une... même si on fait une fausse note, ce qu'on appelle un pin en musique, quelque part, on est quand même contraint dans des systèmes diatoniques, malgré tout, où aller chercher des altérations, ça reste plus compliqué que jouer dans la gamme, on va dire, pour faire simple. Du coup, on ne peut même pas trop faire des grosses erreurs, des grosses fausses notes, parce qu'on est dans un système qui fonctionne déjà tout seul. C'est vraiment une machine à composer, le diato. Et c'est ça qu'on veut garder. Et c'est beaucoup lié à cet aspect bisonore.
Pour moi, jouer du diato, c'est pas jouer d'un instrument incomplet, c'est jouer d'un instrument bisonore. Le problème, il est là, c'est qu'on confond diatonique et bisonore. Bisonore, tu appuies sur une touche, tu as une note en poussant, une note en tirant. Au départ, on a joué d'un accordéon diatonique, bisonore. Bisonore parce que bisonore, et diatonique parce qu'il n'avait pas toutes les notes, il n'avait que deux gammes majeures. Là, on a construit un instrument qui est chromatique, mais bisonore. Donc on joue du chromatique bisonore. On assume le fait qu'il soit chromatique parce qu'on veut qu'il nous offre la possibilité de jouer toutes les musiques, mais on veut garder ce côté bisonore. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse dans cet instrument. Ça fait un instrument plus petit qu'un chromatique, et avec un jeu de soufflet qui est hyper important. Le chromatique, si on schématise, évidemment, c'est pas ça, mais le soufflet n'est qu'une pompe à air. C'est-à-dire, je tire, quand j'ai plus d'air, je pousse, et voilà, les notes ne changent pas. Nous, il faut sans arrêt jouer sur ce côté hyper, comment on peut dire,
c'est dynamique,
dynamique tendu, ouais. Avec cet avant-bras gauche. Et moi, c'est ça, mon instrument, c'est ça. On joue d'un instrument chromatique. C'est un accordéon chromatique, mais bisonore.
tout ça. Bah, l'accordéon diatonique, pour moi, c'est un cuivre.
Anne Nipold, diatoniste d'avant-garde, qui explore le jazz avec son instrument.
Je pense que c'est aussi quand même dans ma conception des choses. Donc j'ai joué dans pas mal d'orchestres de musique du monde et tout ça. Et en général, les accordéons, on les met avec les claviers. Normal. Et moi, j'ai toujours détesté faire ça, ou avec les claviers, ou avec les vents, ouais, en effet. Et moi, bah, je pense que, aussi en termes d'humain, j'ai toujours bien aimé les cuivres. Il y a une ambiance, mais dans ce... Voilà, la dynamique rythmique, la respiration, les attaques, comme jouer en section. Moi, je me mettais toujours avec les trompettes et les trombones. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose là-dedans, quand même, dans mon style de jouer. Ou dans... Donc, voilà, le développement de l'accordéon. Voilà, je ne vais pas changer d'instrument, c'est celui-là. Donc, je pense que c'est juste de pousser ça plus loin, mais sans ajouter des choses. Parce que, voilà, dans le diatonique, justement, maintenant, bah, pour boucler la boucle, peut-être quelque part, voilà, ici, en Belgique, il y a une première école, maintenant, qui a ouvert une section, une école, un conservatoire national supérieur, une section de musique traditionnelle, un peu comme ça existe dans les pays nordiques, le Nordic Masters, ici, ça... Ça débute encore, mais voilà, et je suis la professeure. De, et voilà, là, en septembre, je recommence. Et j'ai par exemple un élève qui joue sur un instrument avec 24 basses, 4 rangées, je sais pas quoi. Donc c'est un diato. Et en fait, je me dis, est-ce que je suis la vieille chaussette qui dit, bah non, c'est plus un diato. Enfin, je ne suis pas du tout dans cet esprit-là, mais en effet, les choses évoluent très fort. Donc comment ce que moi je fais, voilà, la dynamique du soufflet, les tirs repoussés que j'utilise à certaines façons, lui, il peut tout faire avec cet instrument. Donc est-ce que. Voilà, c'est intéressant. Ou est-ce que ça s'arrête, ou est-ce qu'il y a une nouvelle histoire qui commence, ou qui continue, ou qui...
Et vous retrouverez Anne Nipold dans le deuxième épisode de cette série sur le diato, avec également en sa compagnie Andy Cutting.